Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 8, célibat et intersectionnalité. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Eva. Bonjour Eva.
Bonjour Marie.
Comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas ?
Alors, j'ai arrêté d'essayer de me définir, parce que, déjà, merci de me recevoir sur le podcast, hein, c'est très gentil et très intéressant, en plus, j'aime beaucoup ton podcast, voilà. Donc, du coup, j'ai arrêté d'essayer de me définir parce que tous mes rapports à tout sont compliqués, en fait. Donc, moi, je suis née femme, dans le sens où je suis née genre et femme. J'ai des organes sexuels féminins. J'ai un genre qui est très fluctuant, qui est assez féminin depuis plusieurs années parce que j'ai été genrée comme ça. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué qu'être une femme ou pas être une femme. Mais assez souvent, c'est juste que c'est pas un sujet, en fait, pour moi, mon genre. En fait, c'est un sujet parce que c'est socialement un sujet et que les gens me perçoivent comme une femme. Et qu'ils vont avoir des attentes par rapport à mon comportement, par rapport à ça. Mais peut-être par mon parcours, je me suis pas mal détachée de mon genre. Après, je suis aussi une femme racisée, mais c'est pareil, j'ai arrêté d'essayer de me définir du prénom, puisque, en fait, mes parents sont d'origine malgache. Moi, je suis née en France, donc je considère que même si mes origines sont malgaches, je suis de culture très très française, sur pas mal de points. Très occidentale, donc. Et pourtant, quand les gens me voient, ils ne savent pas est-ce que j'ai une culture française, en tout cas au premier abord, parce qu'ils vont avoir des préjugés par rapport à ma couleur de peau, par rapport à tout le fantasme exotique en fait qu'on peut avoir par rapport à mon apparence. Concernant mon orientation sexuelle, c'est pareil, j'ai arrêté d'essayer de me définir, puisque pansexualité, je pense que ça pourrait me définir, mais c'est plus compliqué que ça, parce que pour moi, il y a des gens que je vais apprécier, avec qui je vais avoir envie d'avoir des relations plus intimes ou plus amicales, mais ça va vraiment dépendre du contexte, de mon humeur, de là où j'en suis. Enfin, ça a pas de rapport avec ça a pas beaucoup de rapport avec leur genre et beaucoup plus de rapport avec les échanges que je peux avoir avec les personnes. Donc voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai parlé de mon genre, de ma couleur et de mon rapport à mon orientation sexuelle. Et d'un point de vue psychologique, en ce moment, je suis plutôt équilibrée psychologiquement, mais je suis encore dans un besoin de normalité. Dans le sens où j'ai besoin d'avoir des habitudes, des routines, ce qui va faire que je vais faire des choix aussi en fonction de ça. C'est-à-dire que, on va en parler de toute façon, mais mon rapport au célibat fait partie en fait de ce besoin de normalité, puisque en fait j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu un cancer en fait à 25 ans, donc là j'ai 27 ans. Et le cancer a un peu déboulé, sorti de nulle part, parce que évidemment je voyais pas du tout venir, hein. C'est un peu le cancer de la thyroïde, ce qui est pas grave en soi, ce qui est quelque chose d'assez facile à traiter, mais c'est juste que quand on a 25 ans, personne n'est vraiment malade autour de soi, ou alors les gens sont malades mais ils ont malheureusement genre des maladies genre Crohn que personne ne sait vraiment soigner, ou alors ils vont avoir des pathologies douloureuses, mais peu de gens frôlent la mort en fait à travers une maladie à mon âge, ou en tout cas personne dans mon entourage. Et ça m'a aussi fait beaucoup changer mon rapport au monde et mon rapport aux autres, puisque j'ai appris la solitude dans la maladie. Je le dis d'une façon assez... je sais que les gens vont trouver ça triste, en fait, en m'entendant, mais moi j'en suis pas triste, j'en suis plutôt heureuse, parce que ça m'a permis de grandir et de prioriser les choses qui étaient importantes pour moi à 25 ans, là où je pense que j'aurais pu encore perdre 5-6 ans... à slacker, à rien faire, qui m'importait vraiment et à prioriser des choses qui n'étaient pas forcément mes priorités à moi. Donc voilà.
Ok, merci. Donc dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois et aujourd'hui on va discuter donc de célibat et d'intersectionnalité. C'est toi Eva qui a choisi ce thème. Mais d'abord je voulais te demander, même si tu as commencé à en parler, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ?
Mais c'est marrant parce que tu vois, avant mes 25 ans à peu près, ou même mes 26 ans je pense, être célibataire c'était juste ne pas être en couple pour moi. Et en fait actuellement c'est pareil, c'est quelque chose qui a plus trop de réalité dans le sens où je viens d'avoir une période de quelques mois où j'ai vraiment eu aucun rapport, mais je parle pas juste de rapport physique, je parle même de rapport affectif, parce que j'en avais pas envie, parce que ça me dégoûtait presque, parce que je me sentais trop décalée par rapport aux gens avec qui j'étais. Mais avant ça, pour moi, le célibat, c'était juste vraiment pas être en couple. Hein. C'était assez binaire. Donc, on était en couple et du coup, on était à fond. On attendait beaucoup du couple et c'était quasiment une finalité en soi. Ou alors, on était célibataire et le sujet, c'était de chercher quelqu'un. Et puis après, j'ai rencontré le reste de ma vie, en fait. Donc, j'ai eu un travail qui m'intéressait. Enfin, j'ai eu du bol parce que je sais que j'ai pu avoir, en fait, assez rapidement un travail qui m'intéressait assez jeune, quelque chose dans lequel j'avais envie de m'investir. J'ai aussi assez rapidement pu m'épanouir intellectuellement à travers ça. Et en fait, de ça, j'ai pu trouver de la validation de moi à moi plutôt que de chercher de la validation avec quelqu'un. Et aujourd'hui, en fait, des fois, j'ai l'impression que le couple tel que je voyais à l'époque, donc c'est plus trop le cas maintenant, c'était chercher la validation de quelqu'un. Et du coup, pour moi, être célibataire, et être fort célibataire, c'est beaucoup savoir se valider de soi à soi. Bon, maintenant, j'ai une vision un peu plus nuancée de la chose, dans le sens où, en fait, à partir du moment où on est capable de se valider soi-même, on n'est pas forcément, enfin, le couple ne définit plus le fait d'être validé par quelqu'un ou pas. Mais voilà, je sais, je reste assez fragile par rapport à ça, et même si théoriquement j'ai commencé à intégrer les idées, j'ai pas forcément, émotionnellement, c'est pas forcément intégré ça. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu bien à ta question.
Non, mais tout le monde a des réponses différentes. Et du coup, tu penses que tu es célibataire depuis combien de temps? T'as souvent été dans cet état-là?
Non, c'est la première fois. Mais j'avoue, j'ai pas trop compté. Donc, je pense que ça fait 8 mois. Je suis assez contente d'être célibataire. C'est un état qui m'est pas arrivé souvent, en fait, d'être vraiment célibataire en mode, je cherche pas, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'au final, quand t'es dans la recherche de trouver quelqu'un, etc., t'es pas vraiment célibataire dans le sens où tu te sens dans une phase de transition. Enfin, moi, c'était ça, en fait. C'est que les périodes où j'avais pas quelqu'un, que je voyais pas quelqu'un régulièrement, c'était vraiment, je me sentais dans une phase de transition. Là où aujourd'hui, bon, je suis en phase de transition pour d'autres raisons, mais sur le plan sentimental, je suis en phase de transition. Je suis bien là où je suis, tel que je suis. Et pour moi, c'est ça, être célibataire aujourd'hui. Je fais des rencontres qui sont intéressantes, qui peuvent devenir romantiques ou pas. C'est pas grave si elles le deviennent pas. Ça peut être bien si elles le deviennent, mais c'est pas une nécessité. Puis surtout, je fais attention aussi surtout à la qualité de mes relations, de manière générale, en fait. C'est que ce soit un point de vue amical ou amoureux. Sachant que j'ai beaucoup de mal à faire des rencontres amicales et amoureux. Je cherche vraiment à ce que mes relations soient, au minimum pas toxiques. Et au mieux, qu'elle soit vraiment intéressante pour les deux personnes. Hein. Je veux dire que moi, ça me rapporte quelque chose de relationnel avec quelqu'un, et que à la personne aussi, je puisse lui apporter quelque chose. Et je dis pas ça comme si j'allais lui donner quelque chose qui allait lui changer sa vie, mais plus dans le sens où on en tire quelque chose de positif de deux côtés. Je sais pas si c'est, ça va être très clair pour tout le monde, mais c'est plus... Parce que c'est très général ce que je dis, mais c'est dans le sens où on passe des moments qui vont être chouettes et il n'y a pas de notion de manipulation d'un côté ou de l'autre. Il y a l'influence dans le sens où on souhaite le meilleur pour l'autre, mais il n'y a pas de manipulation. On ne cherche pas à obtenir quelque chose de quelqu'un. Parce que je trouve que dans le couple, en tout cas, ou dans les couples que j'ai connus, c'était beaucoup ça, où on cherchait à obtenir, et je m'inclus dedans, hein, on cherchait à obtenir quelque chose de l'autre qui n'était pas forcément ce que l'autre avait prévu de nous donner. Et réciproquement, il y a des choses que je pouvais pas donner et qu'on m'a demandé de donner et que je n'avais clairement pas en stock. Et voilà, enfin, c'est ça en fait la différence pour moi. C'est que maintenant, bah, dans mon célibat, je cherche juste à ce que mes relations soient très saines. Et voilà. En fait, pour moi, le célibat, pour le moment, c'est avoir des relations saines. Parce que je trouve que le couple tel qu'on nous le vend en Occident, c'est pas quelque chose que je trouve sain.
Ouais. Du coup, je me demandais aussi, est-ce que ton célibat d'aujourd'hui, il pèse sur ta situation financière ou pas? Est-ce que c'est un choix que t'as fait parce que tu pouvais te le permettre? Il y a des personnes qui n'ont pas le choix et qui sont dans des relations de couple parce qu'elles sont dépendantes financièrement de leur conjoint ou de leur conjointe. Toi, tu penses que ton célibat te pèse ou pas du tout d'un point de vue financier?
Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'en général, de toute façon, quand j'étais en couple, c'est moi qui gagnais le plus d'argent. Qui a été d'ailleurs un sujet avec les personnes avec qui j'ai été, parce que j'ai eu beaucoup d'hommes et il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi ça pose problème. Mais non, aujourd'hui, mon célibat me pèse pas, au contraire, parce que en fait, j'ai pas... Enfin, je n'y a pas de pense que je n'ai pas parce que je suis célibataire, en fait. Je me sens pas obligée de faire certaines sorties que les gens pensent qu'ils sont normales de faire, que c'est normal de les faire quand t'es en couple. Enfin, en tout cas, que les personnes qui j'avais pensé que c'était normal de faire quand on était en couple. S'offrir des trucs à la Saint-Valentin. Franchement, c'est juste commercial. Et c'est juste dommage de s'offrir des trucs. Parce que c'est une fête commerciale. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Faut avoir envie de se faire plaisir. Et donc, non, pour répondre à ta question, clairement, j'ai pas de problème financier parce que je suis célibataire. Je sais que c'est une chance, hein. Parce que je sais que je suis une femme dans un pays où, parce que je suis une femme en plus racisée. Donc oui, je sais que j'ai de la chance de statistiquement, j'ai de la chance de pas avoir besoin de quelqu'un. Et en fait, j'ai même pas besoin de mes parents aujourd'hui pour subvenir à mes besoins. Et c'est clairement lié à la profession que j'exerce. Et voilà.
Bah super. Et comment tu vis ta sexualité en célibataire?
Franchement, ça a jamais été aussi peu prise de tête que depuis que je suis célibataire. Sauf que ce qui peut être prise de tête, c'est éventuellement trouver quelqu'un avec qui pratiquer. Parce qu'en plus c'est la pandémie, donc ça a été un peu la dèche, je vais pas te mentir. Mais c'est cool parce que j'ai personne qui a des attentes vis-à-vis de mon corps, personne qui personne à qui il faut faire plaisir en ayant du plaisir. C'est vraiment, j'ai une sécurité de moi à moi qui est top. Et si je devais inclure une deuxième personne, il faudrait vraiment que ce soit parce que je pense que ça va être mieux que quand je suis toute seule. Et c'est pareil, quelque chose, je trouve ça extrêmement sain parce que du coup, je sais que je vais pas faire ça pour avoir la validation de l'autre.
Voilà. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui par rapport à ton célibat ou pas du tout?
Non. Enfin, oui et non. Il y a des raisons que je trouve blessantes en fait, même parce qu'elles ont rien à faire là où elles sont. Justement, j'ai un oncle qui sait depuis quelques années qu'il n'a pas intérêt à revenir à Noël, ou en tout cas pas avec le discours qu'il a pu avoir il y a quelques années, savoir quand est-ce que tu vas faire des enfants. Voilà. Et d'un même, parce que j'ai trouvé ça vraiment blessant, déplacé, enfin. Voilà, mais parce que c'est quelqu'un qui est, avec qui j'ai quand même de bons rapports et pour qui j'ai beaucoup d'affection et un certain respect. Et en fait, ça m'a choqué, en fait, que la question se pose et que ça se fait donc que je vais avec des enfants. Et qu'en plus, la question s'est posée en contexte où moi j'étais célibataire, où j'avais personne avec qui je pouvais envisager d'avoir des enfants. Parce que, bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours envisagé de, si je devais avoir des enfants, que ça se passe à deux. Donc, voilà. Donc moi j'avais trouvé ça hyper déplacé en plus, mais par contre aujourd'hui je vis bien mon célibat. Enfin, des fois j'ai un regard de moi un peu bizarre, genre est-ce que tu vas finir ermite puisque tu es beaucoup trop bien célibataire. mais sinon non, en fait pas vraiment de regard. Puis après j'ai un contexte assez safe aussi, hein. J'ai des potes pour qui ça ne pose pas de problème que je sois célibataire du tout. Enfin, j'ai des potes pour qui être célibataire ou être en couple à mon âge ou à n'importe quel âge c'est pas un problème. Mais c'est pareil, ce que je disais au début, c'est que dans mon célibat, en fait, je fais aussi le tri dans les amitiés et les gens qui permettent des réflexions que je trouve complètement déplacées. Même si c'est des personnes, comme je disais, par rapport à mon nom, qui sont très importantes, pour qui j'ai du respect et tout, j'hésite pas à leur dire qu'en fait, c'est non, quoi.
Ouais, cool. Bah, très bien. Et du coup, t'as choisi le thème célibat et intersectionnalité pour l'épisode d'aujourd'hui. Et ma première question, c'est pourquoi tu as choisi ce thème?
Parce que je me sens concernée, déjà. Moi, l'intersectionnalité, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, je pense que ça doit faire un an ou deux que je comprends ce que c'est. Enfin, que je sais ce que c'est, ce que je comprends, c'est au fur et à mesure. Donc, mais je l'ai pas cité, mais en fait, je l'ai expliqué, mais en fait, mon genre est plus compliqué qu'être cis ou pas cis, même si aujourd'hui je me sens plus femme qu'autre chose. J'ai dit que j'étais racisée, et puis en plus moi je suis racisée particulière parce que je disais d'origine malgache, mais en fait mes parents sont d'origine malgache, mais en fait bon les gens ne me voient pas à l'écran, mais en fait une malgache c'est quelqu'un qui va avoir des traits beaucoup plus indonésiens, donc Asie du Sud-Est que noir, et pourtant Madagascar fait partie d'Afrique, donc on peut se considérer comme afro-descendant en fait, même en histoire. Et en fait c'est marrant parce que finalement l'intersectionnalité, je trouve que quand tu arrives au comble entre guillemets d'être intersectionnel, d'être concerné par l'intersectionnalité, c'est quand tu quand finalement il n'y a pas de case où te mettre, quoi. Je suis pas tout à fait une femme noire parce que j'ai pas l'habitude, enfin j'ai pas l'apparence d'une femme noire. Je suis pas une nana purement cis parce que il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que mon genre c'est, enfin j'ai l'impression que mon genre n'est pas là en fait quand je vis en fait quand je me lève c'est pas un sujet. Le fait des fois j'ai envie de me maquiller mais c'est pas parce que j'ai envie d'être féminine, c'est juste parce que je trouve ça joli. Vraiment le genre s'est détaché de mon et en fait je le sens consciemment parce que je me suis maquillée pour être une jolie fille quand j'étais plus jeune et je vois la différence maintenant quand je me maquille parce que je trouve ça joli et enfin j'ai pas du tout le même rapport au truc, enfin c'est pas, il y a pas de démarche de séduction même vis-à-vis de moi-même, c'est pas parce que j'ai envie de me séduire moi, c'est juste parce que esthétiquement je trouve ça joli. C'est dans la manière dont je m'habille aussi. J'ai porté des vêtements qui pouvaient énormément me sexualiser dans le regard des autres et ça m'arrive encore, mais avant je portais que ça parce que j'avais besoin de me sentir pareil, validée par la société. Enfin, je trouve que le genre c'est quand même une question de validation, hein, mais voilà. Et du coup voilà, j'ai choisi le sujet d'intersectionnalité parce que j'ai pas de case, et à chaque fois que j'essaie de me définir c'est compliqué parce que du coup mon rapport à la société est compliqué parce que chaque personne va avoir des attentes différentes vis-à-vis de moi, parce que dans le milieu du travail, par exemple, je suis souvent plus vue comme une femme que comme une femme noire, parce que le racisme au travail, c'est quand même assez tabou. Et le fait de parler de ta couleur de peau, c'est très très tabou au travail. Donc je suis plus souvent vue comme une femme, parce qu'être une femme, c'est être la diversité, déjà, pour beaucoup de milieux professionnels. Après, quand je suis dans dans ma famille, ben moi je suis l'enfant d'immigrés, ça je l'ai évoqué. Ben en fait, quand je suis à Madagascar, je suis pas vraiment malgache. Quand je suis en France, je suis pas vraiment française aux yeux des autres. Hein, je parle dans ma tête à moi, je me demande pourquoi ça compte, mais voilà. Et donc c'est vraiment le fait que ben, l'intersectionnalité, c'est le côté finalement la société sait pas dans quelle case se mettre. Toi, tu sais pas dans quelle case te mettre non plus parce que finalement la case, c'est la société qui l'a construite et pas vraiment toi. Et à la fin, bah tu sais, enfin tu sais que tes problématiques sont plus compliquées qu'être, enfin que ce que tu peux lire parfois. Moi, ce que j'ai pu lire dans la presse, que j'ai même pu lire dans les bouquins sur les enfants d'immigrés, c'est comme si, c'est comme si ou c'est comme cela. Les femmes, elles ont telle problématique. Bah moi en fait, j'ai un peu des deux et puis j'ai pas, je me reconnais pas en fait dans ces cases et je pense que je me reconnais encore moins parce que ma situation est compliquée du fait que, enfin c'est compliqué. Ma situation est complexe du fait que je n'ai pas de cases. Donc les gens savent pas trop où mettre quand je leur parle et les gens vont être obligés de. Moi je vais être obligée de ça aussi, mais je vais être obligée de réfléchir un peu plus loin que ah oui ça se passe comme ça pour moi parce que je suis une femme. Ou parce que je suis noire, ou parce que enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire Marie.
Oui bien sûr. Et du coup moi peut-être je commencerai je voudrais aussi te poser une question par rapport à ton genre. C'est quand que tu as commencé à te poser ces questions là par rapport au genre?
Donc vers 12-13 ans, j'étais dans ce qu'on peut appeler une féminité assez exacerbée, j'aimais les talons, j'aimais le maquillage, je me maquillais énormément, très mal aussi. Mais je me maquillais surtout beaucoup. Puis après vers 15-16 ans, j'ai commencé à comprendre ce que c'était, parce que la société attendait réellement de ce que c'était être une fille. Très beaucoup dans la séduction, beaucoup dans plaire. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses à ce moment-là, dans le sens où j'ai beaucoup compris ce que les autres attendaient de moi à ce moment-là. C'est utile en fait même aujourd'hui, parce que, enfin, des fois j'ai juste envie de glisser et de faire ce qu'on attend un peu de moi, parce que la flemme. Et après, ça a été le fait que j'ai eu un parcours qui aurait pu être un parcours de garçon, en fait, dans le sens où j'ai fait beaucoup de choses que les gens s'attendaient que je fasse en tant que fille. Mais après, j'ai fait des études, entre guillemets, très masculines, dans le sens où, en tout cas, il y a une majorité de garçons. J'ai fait des études scientifiques, plutôt orientées ingénieur. Puis après, j'ai fait de la robotique. Donc, c'est très, très masculin, en fait, comme milieu. Après, je suis partie dans l'industrie du spatial, pareil, il y avait que des garçons. Puis même avant, j'étais en automobile, il y avait aussi que des hommes. Enfin, c'était très masculin. Et même aujourd'hui, en fait, j'évolue essentiellement dans des milieux très masculins. Et du coup, j'en prends les codes. Parce que, quand tu passes 8-10 heures par jour avec des mecs, au bout d'un moment, bah ouais, tu te tiens un peu comme eux par imitation. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Je veux dire, si je passe ma journée avec un gars, à la fin, je me tiens un peu comme lui, dans le sens où, ben, d'une fille, tu vas t'attendre, ou en tout cas, quand j'étais gamine, c'était comme ça, on va t'attendre à ce qu'elle se tienne droite, est-ce qu'elle soit souriante, est-ce que, enfin, tout ça, quoi. Et quand tu traînes avec des garçons, franchement, tu fais la gueule, t'as envie de faire la gueule, tu te sens mal dans le sens où tu vas avoir le dos courbé, tu vas, faire du manspreading aussi, des fois, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est confortable, hein, le manspreading. C'est pas très cool pour tes voisins de train, mais c'est plus confortable. Et voilà. Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est le fait que, bah, du coup, je vais avoir des attitudes qui sont assez masculines. Et en fait, aujourd'hui, en fait, ça s'est fait assez progressivement parce que je me suis pas réveillée un jour en me disant, ah, mais au fait, c'est quoi mon genre? Je me suis sensibilisée à la question du genre parce que j'ai compris qu'il y avait des gens pour qui c'était plus compliqué. Et d'ailleurs, pour vraiment répondre à ta question, je pense que j'ai un moment, effectivement, je me suis posé la question. J'ai entendu Clémence Baudoc, qui est ancienne rédactrice en chef de Mademoiselle et qui aujourd'hui est rédactrice en chef d'autres podcasts, qui disait à un moment, je crois que c'est dans Cherchefort qu'elle en parlait, elle disait j'avais l'impression qu'il y avait le camp des bleus et le camp des roses, et que donc les bleus c'était les garçons et les roses c'était les filles, et moi je voyais que des nuances de violet. Et à un moment je me suis dit, mais en fait moi ça a toujours été comme ça. Il y a des garçons qui sont très bleus, il y a des filles qui sont vachement bleues aussi. Il y a des filles, quand elles sont gosses, elles jouent au foot, elles se bagarrent avec les garçons, tout ça. Et puis il y a des garçons, enfin moi je vois, ne serait-ce que même des garçons de ma famille, hein, que je vois, qui sont très féminins, ou très dans des attitudes que tu pourrais attendre d'une fille, qui vont être très apprêtées, qui du coup vont pas se maquiller parce que leur famille vont pas, en tout cas ma famille ne s'attend vraiment pas à ça. mais qui va être très très apprêté, enfin même plus féminin que moi. Enfin moi je vois mon frère, il est plus féminin que moi. C'est moi ça me fait marrer. Je le vois en train de faire un caprice parce qu'il veut une nouvelle crème hydratante. Ça me ferait jamais. Moi ça m'est jamais arrivé. Je veux dire à son âge, ça, parce qu'il a 10 ans de moins que moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir ce genre de réflexe. Et en fait, je me dis oui, and so what en fait. C'est ok, il a d'autres envies. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Est-ce que est-ce que moi j'ai d'autres envies aussi? Oui, mais c'est pas grave non plus. Et de me dire ok, il y a des gens qui voient qu'il y a un camp des bleus, il y a un camp des roses. Ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait toutes ces attentes. Par contre, moi, je me suis aussi permis de me dire je suis beaucoup plus violette que rose, et c'est ok.
Non, mais moi aussi, ça me fait penser que moi, c'est plus récent, mes questionnements par rapport à mon genre. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est en voyant aussi d'autres personnes, comme tu citais Clémence Bodoc, moi, en voyant plutôt des personnes sur les réseaux sociaux, d'autres personnes faire leur coming out, par exemple non-binaire. Et c'est plus récent, et surtout avec le confinement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins important. Forcément, on n'est plus obligé de s'épiler, de s'apprêter, même si je ne le faisais déjà pas beaucoup avant. Maintenant, je m'habille que en jogging, quoi. Donc c'est vrai que de plus en plus, je me questionne sur mon genre et sur cette non-performance de féminité, et à quel point on peut se permettre d'être masculine si on se définit comme femme. Enfin, c'est des questions sans fin. Et je voulais te demander aussi par rapport au célibat. Moi, ça m'a permis d'être célibataire, de m'offrir toute cette liberté par rapport à mon look, par rapport à ce que je renvoie. C'est pas la liberté totale, mais je me pose vraiment la question de, par rapport au thème de sologamie, est-ce que le célibat, ça t'a aussi permis de te poser davantage de questions, que ce soit sur ton genre, sur ta racialisation, est-ce qu'en couple peut-être on a moins le temps, on a moins l'occasion, on a moins la possibilité de se poser des questions et d'être libre, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi c'est un rapport avec le célibat ou pas du tout?
C'est un rapport avec le célibat parce que, comme t'as dit, je suis racialisée, hein. Donc, je suis racialisée, et moi, je me suis exotisée moi-même, en fait. Dans le sens où, je vois que je dégage quelque chose qui est différent à cause de mon apparence et à cause des préjugés qu'on peut avoir sur moi, du fait de mon apparence. Je dégage des choses qui vont faire fantasmer, beaucoup des hommes, on va pas se mentir, hein, c'est quand même beaucoup de monde. Sur une façon dont je vais me comporter, ou je sais pas, enfin, moi, c'est bon. Enfin, je comprends pas bien, mais je l'ai quand même ressenti. Des conversations, d'ailleurs, la dernière personne avec qui je suis sortie, c'était quelqu'un qui était très intéressant, je suis pas restée avec cette personne parce qu'en fait, moi, j'avais besoin de me questionner sur moi, et je voyais qu'en fait, mes questions posaient problème. Ça ne lui posait pas problème, mais moi, ça me posait problème parce que il y a des choses que je me permettais pas de faire parce que j'étais en couple, et en fait, il y a des choses dont je me suis rendu compte, en plus, quand j'étais avec cette personne, qui était, moi, ce que j'aimais le plus chez cette fille, du coup, c'est ce qui était féminin chez lui, alors que quand j'étais sortie avec une fille, ce que j'aimais le plus chez cette fille, c'est ce que je trouvais masculin chez elle. Donc, et je dis pas ça en mode j'essaie de pas fétichiser les genres, mais en fait, je me rendais compte que c'était cette ambiguïté que je trouvais intéressante, et en fait, je me suis rendu compte que je trouvais cette ambiguïté intéressante parce que je la reconnaissais chez moi, en fait. Le fait de. Mais le problème, c'est que quand t'es en couple, en fait, t'es hyper biaisé parce que t'es avec quelqu'un, donc quelque part t'as envie de valider le fait que t'es avec quelqu'un. Enfin, t'as envie de valider la logique, ton identité derrière, parce que quand t'es avec quelqu'un, tu lui montres une certaine identité aussi, et tu vas avoir tendance à avoir besoin d'être constant. Et d'ailleurs, moi, c'est un vrai problème dans mes couples, du coup, mon identité est hyper fluctuante. Donc il y a des moments où je vais être hyper féminine, et des moments où pas du tout, et j'ai besoin que ce soit ok dans les deux cas. Et du coup, là, depuis que je suis célibataire, déjà, j'ai appris à vivre avec moi-même, ce qui est assez cool. J'ai arrêté de vraiment me poser des questions sur mon genre à partir du moment où j'étais célibataire. Et ça m'a fait du bien. Parce que, je me rappelle, mon ex, il m'a connue à une période où j'étais hyper féminine. Moi, je sais qu'à peu près, en fait, c'est saisonnier chez moi vers mai. En général, je suis vraiment une fille. c'est assez marrant parce qu'en plus après juillet août je redeviens un peu moins féminine, je suis moins dans cette performance de féminité, mais vers mai je sais pas pourquoi j'aime bien être vraiment je peux faire la totale côté féminité, et du coup il avait l'impression que j'étais très féminine, et Et je pense qu'il y a eu des attentes. C'était complètement en décalage avec ce que je suis réellement. C'est-à-dire que oui, j'étais hyper féminine, mais ça durait 3 semaines. Et après, moi, je suis pas très fan des jogging quand je suis dehors, mais j'aime bien les pantalons larges. J'aime bien les talons, mais c'est plutôt les gros talons. Enfin, j'aime bien les trucs qui prennent de l'espace, en fait. C'est ça. C'est en plus, d'ailleurs, il m'avait dit une fois ça, mais ça m'intéresse. Parce que ça dit des choses de moi. C'est que j'aime bien, moi, je vais porter des couleurs qui peuvent être assez voyantes. Et maintenant, j'ai commencé à porter des vêtements qui peuvent être assez larges. Et en fait, j'aime bien prendre de la place dans l'espace public. Et dans l'espace tout court, en fait, même au travail, etc. Et j'en joue parce que, d'avoir été hyper féminine au début de ma carrière, j'ai vu que effectivement c'était efficace pour plein de trucs. Hein. C'est fou ce que tu peux obtenir d'un mec quand tu portes une jupe. C'est triste, mais c'est vrai. C'était souvent vrai dans les jobs que j'ai exercés. Voilà. Et du coup là, je suis en train de me réapproprier mon identité d'un point de vue apparence aussi, parce que je te disais, j'ai commencé à porter des fringues plus larges et des couleurs plus claires, ce que je faisais déjà quand j'étais en couple, mais que je faisais moins consciemment, en fait. Et aujourd'hui, je le fais beaucoup plus consciemment. Et parce qu'aussi, je m'en fous de... Enfin, je disais, j'ai personne, puis pour me dire « Oh, j'aime bien quand t'es habillée comme ça. » Parce que pour moi, c'est désastreux entendre quelqu'un me dire « J'aime bien quand tu es habillée comme ça, parce que du coup, je vais m'habiller tout le temps comme ça, parce que j'ai envie de plaire. » Et là, j'ai plus envie de plaire, donc je m'en fous, en fait. La seule personne à qui j'ai envie de plaire, c'est moi. Donc, puis des fois, je croise même pas le miroir le matin quand je pars bosser, donc... limite si je me regarde pas, quoi. Mais par contre, quand je me regarde, c'est à moi que je dois plaire, quoi. Enfin, c'est super important pour moi de me sentir jolie quand, et jolie, c'est plus sexy. C'est aussi ça, c'est que j'ai détaché le sexy du joli. Et sexy, parce que sexy, franchement, est-ce qu'on connaît un terme plus male gaze? Je ne sais pas. J'ai détaché le sexy du joli, et le joli, c'est vraiment, qu'est-ce qui, dans mon œil, me plaît. Qui est forcément biaisé, construit, etc. Mais qu'est-ce qui, moi, me plaît? Et après, aller chercher le pourquoi ça me plaît. Et est-ce que vraiment, une fois que j'ai fait cette analyse, bon, j'ai vachement de temps aussi dans ma vie, donc, voilà, j'ai le temps de faire des analyses et tout. Mais voilà, une fois que j'ai fait cette analyse, est-ce que ça me plaît toujours?
Ouais, mais c'est trop intéressant. Et puisque tu dis aussi qu'on a le temps d'y penser, c'est-à-dire qu'on a le luxe d'être célibataire, on a le luxe de pouvoir réfléchir à tout ça. Et comme tu disais, c'est sortir du male gaze, en fait, et passer à cette sorte d'autre gaze, quel que soit son genre, et aussi ne plus être dans cette volonté de séduire. Comme tu le disais au début de l'épisode, pour toi, célibataire, c'est aussi ne plus être dans la recherche de quelqu'un. Et du coup, ça change tout. Parce que forcément, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, mais en recherche, on va être sur les applis de rencontre ou dans la vie, on va s'habiller autrement, on va se conformer à ce qu'on pense que les mecs, si on est hétéro, attendent, à ce male gaze, et ça change tout de juste comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui, ben j'ai envie de rester nue, ou tu vois, j'ai envie d'être en jogging, mais genre, enfin, ça n'a pas d'importance. Et du coup, moi, c'est trop intéressant cet épisode, et je me demande vraiment comment on peut voir l'avenir, en sorte, comment on peut aller encore plus loin, en fait. Et comment toi, tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que tu penses, bien sûr, il faut sortir de la binarité, il faut révolutionner les genres, il faut faire tomber cette société patriarcale, raciste. Mais toi, dans l'avenir, tu te projettes comment? Tu te projettes célibataire? Tu te projettes... T'as envie de quoi, en fait, pour te sentir bien? Que ça reste comme aujourd'hui, ou t'as vraiment des attentes ou des volontés?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Imagine the the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mais en fait, j'ai arrêté d'avoir des attentes aussi. Et ça, c'est lié au fait que j'ai eu un cancer. Enfin, je souhaite à personne d'avoir un cancer pour s'en rendre compte, mais c'est moi, en tout cas, dans ma manière d'arrêter, comme je disais, en fait, slacker, parce que, enfin, moi, des fois, j'étais en couple parce que j'avais la flemme d'être célibataire. Parce qu'être célibataire, c'était devoir me questionner, etc. Et en fait, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté, enfin, je veux dire, j'ai pas été que dans des relations hyper saines depuis loin de là. J'ai arrêté d'être dans l'attente de la suite. Et c'est un truc, enfin, je veux dire, c'est difficile parce que c'est une question de tous les jours, parce que j'ai eu l'habitude pendant des années d'avoir des attentes pour l'avenir. Parce que, enfin, bon, concrètement, moi, j'ai quand même fait un bac plus 6. Tu fais pas 6 ans d'études sans imaginer, enfin, tu fais pas 6 ans d'études, surtout parce que moi, j'ai quand même été pauvre quand j'étais étudiante, etc. J'ai dû vivre chez mes parents pendant des années, voilà. Et du coup, j'ai accepté cette pauvreté parce que je pensais que la suite serait plus sympa. Bon, alors, verdict, pour le moment, la suite est plus sympa. Je dis pas que c'est tous les jours tout rose, mais c'est plus sympa parce que, en fait, avoir une vie où tu as de l'argent, quoi qu'on en dise, c'est quand même plus confortable que quand on n'a pas, même si c'est très cool de pouvoir, quand tu peux vivre de ta passion. Non, j'ai arrêté d'avoir des attentes parce que j'ai arrêté. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. C'est que, concrètement, avec ce cancer, j'ai littéralement frôlé la mort, entre autres parce que j'ai eu une infection nosocomiale, que, ça a été compliqué, je suis restée 3 fois plus longtemps à l'hôpital que j'aurais dû rester. J'ai été dénutrie parce que la PHP, la bouffe est dégueulasse. J'ai pas d'autres mots. Hein. Je sais pas si tu vas censurer les mots, mais concrètement, c'est vraiment immonde. J'ai vraiment été dénutrie, etc. Et j'ai vraiment, vraiment failli mourir. Et en fait, je me suis regardée dépérir en me disant, tiens, mais en fait, avoir des attentes pour les autres, j'ai jamais eu d'attente pour moi, mais dans le sens, qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Et en fait, ce qui me fait du bien, et c'est lié à mon éducation, c'est lié dont je viens, mais c'est pas être en couple. Enfin, ça a été en partie être en couple à cause de la culture que j'ai, où la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. Construire une famille, construire un foyer, c'est des choses qui peuvent être très très importantes dans ma culture. Mais dans la manière dont moi j'évolue, c'est pas quelque chose qui est si important que ça, parce que ce qui serait vraiment important si je devais être en couple, c'est que tout le monde se sente bien et que pour tout le monde ça soit positif. Et aujourd'hui, ou en tout cas dans ma manière jusqu'à maintenant, d'être en couple, j'ai toujours été là pour l'autre et je me suis jamais attendue à ce que l'autre soit là pour moi. Et c'est très féminin comme comportement. Et en fait, être célibataire aujourd'hui, ça me permet aussi de me poser des questions par rapport à ça. Donc, est-ce que je les attends pour demain? C'est juste que si je devais retrouver quelqu'un, si je devais être de nouveau dans une relation de couple, je prendrais pas la définition qui m'a été donnée quand j'étais gosse. Je prendrais pas la définition qui nous est donnée par la société parce que c'est pareil, on pourrait en parler longtemps, mais c'est une définition qui est quand même assez masculine. On est encore dans tous ces ressens, ces relents de vieille époque, en fait, de presque post-guerre, hein, j'exagère un petit peu, mais où on s'attend un peu à ce que ta nana, enfin moi dans les faits en tout cas c'était comme ça dans mes couples, où ta nana elle te fait ta liste de courses et elle te dit ce qu'on va manger pour la semaine, parce que sinon on va manger des pâtes au pesto toute la semaine et personne n'a envie de faire ça en fait. Et en fait, enfin moi c'est des trucs de base comme ça que je veux plus attendre. En fait je préfère être célibataire dans ce cas. En fait je sais pas, tu vois, je me dis peut-être que je vais trouver un individu, un homme ou une femme, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, quelqu'un qui se considérera ni homme ni femme, qui sera capable d'être indépendant sur ces choses-là, ou en tout cas d'être autonome sur ces choses-là, sur les choses du quotidien, qui me pèsera pas à moi, que je serai capable d'accompagner, que j'aurai envie d'accompagner dans sa vie, mais qui sera aussi capable de m'accompagner et qui sera capable d'être là pour moi. Parce que, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais, en fait, j'étais en couple quand j'ai eu mon cancer. Et le mec, il était plus inquiet que moi, et en fait, il faisait peser ça sur moi, et en fait, c'était cadeau de la charge mentale, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert d'être en couple si quand t'es malade, il faut aussi que tu t'occupes de l'autre. Enfin, franchement, t'as vraiment d'autres choses à foutre que t'occuper de l'autre comme ça. Et c'est vraiment des choses que je ne veux plus jamais vivre, en fait. Je ne veux plus jamais me retrouver dans ces situations où l'autre s'appuie sur toi, même quand c'est pas le moment, quoi. Et où ça devrait être évident que c'est pas le moment, parce que il y a aussi des moments où toi, tu vas pas dire que ça va pas, mais quand tu lui as dit, ouais, je suis à l'hôpital, j'arrive pas à manger, et que l'autre te demande de l'appeler souvent parce que quand même il s'inquiète, à mon avis, c'est pas sans cette affaire. Et voilà.
Waouh, ok, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui écoutent l'épisode et qui, elles aussi, se situent à l'intersection de plusieurs oppressions, qui se posent des questions sur leur genre? T'as quand même l'air d'avoir une sacrée réflexion sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? De rassurant ou pas?
De laisser les autres parler, en fait. Et de se recentrer sur eux-mêmes. Enfin, c'est... Enfin, sur eux-mêmes, elles-mêmes. Ça m'agace, cette histoire de pronoms, parce que... Parce qu'en fait, les pronoms, c'est comme tout le reste, en fait. Enfin, pour prendre les pronoms, moi, je me suis posé la question de est-ce que j'avais envie d'être genré au féminin, parce que je trouvais ça un peu ridicule, vu mon taux de féminité, surtout. Là, on est en février, je sors d'une période très, très masculine. Donc c'est vraiment des périodes où je me dis ouais ok on dit elle parce que j'ai l'habitude, mais franchement on dirait il, est-ce que ça me choquerait vraiment? Voilà, de vraiment se concentrer sur eux-mêmes, de se poser des questions de qu'est-ce qui leur fait du bien à eux, de quoi ils ont besoin. Et quand je dis faire du bien, c'est pas forcément faire du bien dans les médias, mais quelles questions est-ce qu'ils ont besoin de se poser pour pouvoir avancer. Moi j'ai dû me poser la question de ce que c'était être célibataire, est-ce que c'était être en couple pour avancer. Et ça a été pénible parce que j'ai vraiment grandi avec la vision de la princesse Disney, enfin je veux dire... Si je devais discuter avec la moi de qui avait 7 ans, et donc il y a 20 ans, hein, et que je lui disais, bah écoute, je suis célibataire et je le vis bien, elle me dirait, mais pourquoi? Enfin, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, apprendre à remettre en question ça, de prendre conscience de dans quel milieu on a grandi, etc., c'est des choses qui sont importantes pour soi, pour avancer. Et en fait, on n'a pas que ça à faire d'attendre ce que la société peut en dire. Parce que la société, elle a plein d'attentes par rapport à ce qu'on est. Puis en plus, c'est plein d'attentes contradictoires. Hein, je veux dire, je pense que les gens qui écoutent ton podcast sont au courant des contradictions qu'il peut y avoir sur les attentes qui pèsent sur les femmes. Tu veux que tu sois une mère, mais il faut aussi que tu sois une femme fatale. Franchement, quand t'as un bébé qui a 3 mois, c'est compliqué d'être une femme fatale et d'être une bonne mère. Entre guillemets, une bonne mère. Enfin, on n'a pas le temps pour ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment découvert que j'avais pas le temps pour ça parce que, en fait, il peut se passer plein de trucs qui se passent pas comme t'avais prévu, genre un cancer, et que tu te dis juste, sans se dire, ouais, si je devais mourir demain, qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? C'est pas ça, en fait. C'est plus, si aujourd'hui je me sens pas bien vis-à-vis des étiquettes qu'on m'a collées sur moi, déjà, quelles étiquettes je pense qu'elles sont vraies? Pourquoi je pense qu'elles sont vraies? Où est-ce que ça mène, en fait, d'avoir cette étiquette? Et pour aller encore plus loin, enfin, moi, je trouve, en tout cas, que c'est la démarche dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est vraiment de me détacher de ces étiquettes. Rien à foutre d'être une fille ou un garçon, au final. Je m'en fous d'être une femme ou un homme. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet parce que mon genre n'influence pas tant que ça, en fait, qui je suis. Ça va influencer le fait que j'ai un cycle hormonal, hein. Enfin, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui a ses règles, j'ai un syndrome prémenstruel qui est très fort. Bah oui, bah, je l'apprivoise, tu vois. Enfin, c'est, je veux dire, oui, je veux dire, il y a pas de généralité propre. Il y a beaucoup d'individualité, il n'y a pas beaucoup de généralité, finalement. C'est intéressant d'aller se renseigner sur comment ça fonctionne un syndrome prémenstruel quand on en est victime. Et je dis victime dans le sens quand on le subit et qu'on a l'impression de ne faire que le subir. Moi, j'ai arrêté de subir mon syndrome prémenstruel. Je sais que je suis mauvais poil à certains moments et rien que de mettre les mots sur le fait que j'ai un syndrome prémenstruel, déjà je me sens mieux parce que je sais qu'en fait ça va passer. Ça, c'est temporaire, ça va passer. Et en fait, de se rendre compte, en fait, que, oh, et oui, voilà, un autre truc aussi. Se rendre compte que les choses bougent. D'un point de vue de la société, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Enfin, j'ai mangé hier avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est une femme qui a 30 ans de plus que moi, littéralement. Et qui me parlait de, elle, comment c'était être une jeune femme, il y a 30 ans, quoi. Et je me disais, effectivement, oui, il y a quand même des choses qui ont bougé, et c'est cool, parce que maintenant, le harcèlement de rue, bah, c'est du harcèlement de rue. Et même si il y a encore plein de choses à faire parce que c'est pas traité de la façon d'une façon idéale, dans le sens où il y a encore des gens qui vont me dire que c'est un compliment, dans le sens où est-ce que vraiment la répression c'est une solution, est-ce qu'on va pas juste, est-ce que c'est pas un peu faire la flemme en fait socialement de d'être dans la répression là où en fait on se rend compte qu'il y a un vrai problème plus que d'éducation, il y a un problème de culture qui tourne autour, d'exemples de façon de faire, hein. Même des exemples de drague en fait, ce qui est quand même des mecs qui harcèlent dans la rue parce qu'ils pensent que c'est de la drague. C'est-à-dire, il y a un problème derrière ça qui est qu'en fait les représentations, la séduction, sont oppressives dans beaucoup de femmes. Et en fait, de se rendre compte et de se dire, ok, moi j'ai envie de construire autre chose, d'aller chercher des fictions. Moi, j'ai beaucoup bossé sur la fiction. D'ailleurs, je t'en avais parlé, j'essaie d'écrire un bouquin. Ça marche pas très bien pour le moment, mais ça va venir. D'aller chercher des œuvres de fiction qui vont être sur ces représentations différentes. Et en fait, on se dit, ouais, mais ça n'existe pas encore, vu que la société aujourd'hui, elle n'est pas idéale, et du coup, ça ne va pas exister, la fiction. Mais en fait, non. Moi, j'ai lu un George Sand, enfin, j'ai lu le premier bouquin de George Sand, qui est Indiana, qui a plein de défauts, je veux dire, d'un point de vue féministe. Aujourd'hui, évidemment, il y a plein de défauts, il y a des côtés colonialistes, etc., qui en plus, je suis une femme raciste, donc ça me pose problème. Mais en fait, de te voir que déjà, il y a un siècle, plus d'un siècle, il y a une femme, il y a des femmes même, qui ont imaginé autre chose. Puis en plus, je trouve que George Sand, c'est intéressant, parce qu'elle a quand même pris un nom masculin. Enfin, je veux dire, c'est un personnage qui est intéressant. Mais quand on lit Indiana, par exemple, c'est une jeune femme qui, en fait, va dire, peu importe tout ce que le patriarcat peut faire peser sur moi, ils n'auront pas ma liberté de penser. Ils n'auront pas, ils pourront soumettre tout ce qu'ils veulent chez moi, mais ils pourront pas soumettre mon esprit. Et c'était il y a un siècle et demi. Donc c'est bien la preuve que je crois que j'y vais un petit peu avec à la louche là sur les dates, mais c'est vraiment la preuve l'existence de ce genre de fiction qu'il y a toute une réflexion qui est déjà faite, qu'on s'est un peu fait voler, parce que si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui George Sand, à une personne lambda, ce que George Sand a fait, et ouais, personne va peut-être te dire ouais c'est une nana qui écrivait et c'était cool parce que c'était rare les femmes qui pouvaient écrire à cette époque-là, mais ça va plus loin que ça en fait. C'est que sa fiction, l'imaginaire qu'elle propose, c'est un imaginaire qui a quelque chose de révolutionnaire déjà en soi, et en fait on a besoin de ces fictions pour se nourrir soi, de se dire qu'en fait il y a tout un travail qui a déjà été fait et qu'on peut aller plus loin, mais par contre voilà, faut aller s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Ben, je dis ça en mode parce qu'aujourd'hui oui, enfin je pourrais dire aux gens allez lire Despentes, allez lire Mona Chollet, etc. Mais enfin, je trouve qu'en se situant sur des autrices que j'adore, hein, mais en se situant que sur des autrices très contemporaines, on oublie que même au-delà de la politique, au-delà de tout ça, il y a de la fiction d'avant, et en fait, on a besoin d'une nouvelle mythologie. Je parle de mythologie en mode parce que c'est la mythologie chrétienne qui fait que aujourd'hui, jusqu'à très récemment, les femmes devaient prendre le nom de leur mari automatiquement, etc. Et de se créer d'aller sur de nouvelles fictions, ça peut nous permettre de créer une nouvelle mythologie qui en fait va être une base de réflexion, une base de choses qu'on va trouver logique. Dire par exemple, bon dans Indiana on est plus sur, je suis en train de faire un commentaire de bouquin alors que je suis pas du tout prof de français, hein, donc prendre avec des pincettes ce que je dis. Mais par exemple dans Indiana, ce qui est important, c'est de voir que elle n'agit pas que contre l'autre. C'est-à-dire qu'en fait ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à ses fins, d'une certaine façon, de manière assez limitée, parce que ça reste un milieu extrêmement patriarcal, etc. Mais elle arrive quand même à ses fins, et en fait, il y a des choses sur lesquelles elle ne cède pas. Et je pense qu'à l'époque, c'était révolutionnaire, parce qu'en fait, une nana, à l'époque, ça cède. Même maintenant, hein, je veux dire, t'es une femme, aujourd'hui, il y a plein de contextes où tu vas céder, où tu vas lâcher l'affaire, parce que tu sais que ça va juste être trop pénible et trop fatigant pour toi. Mais de te dire qu'en fait, ça fait super longtemps qu'on a commencé à vouloir se détacher de tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Enfin, et voilà. Pour ce que je dirais à quelqu'un qui se pose des questions sur son intersectionnalité, aller chercher de la fiction.
Bah ouais. Carrément. Bah écoute, je mettrai la date et la référence d'Indiana de George Sand dans la description de l'épisode, comme ça on aura la vraie date. Et puis les personnes pourront aller le lire, dont moi par exemple. Et pour finir, je voulais un petit peu savoir, enfin tu le sais déjà, mais que tu me dises comment on se connaît, toi et moi, pour que les personnes qui écoutent l'épisode sachent qui on est l'une par rapport à l'autre, comment on se connaît.
Moi, je te connais d'Instagram. Je t'ai connue chez Clémence, je crois. Chez Clémence Bodoc, qui est star reporter dans un tuto de Conquérir le monde. Dans un podcast, tuto Conquérir le monde. Tu étais dans Activiste, dans la série Activiste. Et clairement, à la base, j'ai écouté, parce que de toute façon, c'est une période où j'écoutais beaucoup... ça, parce que j'avais besoin de gens qui bougeaient, qui faisaient des choses et tout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à te suivre. Puis après, j'ai écouté pas mal de tes podcasts que j'ai trouvé intéressants, parce que c'était vraiment une vision indirecte. Enfin, il y a quelque chose de très sans pudeur dans ce que tu fais que j'ai beaucoup apprécié. Puis on a commencé à parler un peu sur Insta, et puis voilà. Enfin.
Trop bien. Je savais pas. Et pas trop cool. Et du coup, la dernière question, Sologamy, c'est la caisse de résonance. Donc, si tu veux partager quelque chose avec les auditoristes de Sologamy, un projet que tu as, si tu veux parler de ton livre, ou si tu veux donner un conseil, ou enfin attirer l'attention des auditoristes sur quelque chose, c'est un peu ta question finale, si tu as quelque chose à dire.
Je vais pas parler de mon projet, parce que le projet a moins de deux mois maintenant, parce que c'est le premier mois, donc je vais pas forcément en parler puisque c'est un peu tôt. Par contre, je pense que il faut pas hésiter à entrer dans le dialogue, même avec, enfin moi c'est un truc que j'essaie de faire là depuis quelques temps, même avec ces questions qui ne nous concernent pas directement. Je pense que c'est important, parce que pour pouvoir construire un projet de société derrière, il faut qu'on puisse se parler. Et là, je m'adresse aussi à... Parce que c'est, enfin, tu avais partagé en story, Marie, cet article de Néon sur les activistes, et entre autres les activistes féministes qui ont tendance à s'écharper. Je pense qu'en fait, ça vient aussi du fait, mais pas que ça, mais ça vient aussi du fait que on connaît mal, on comprend mal, et on se sent trop largué par rapport aux questions des autres. Aux questions, par exemple, moi j'ai pas de. Je peux pas considérer que je suis handicapée, mais je pense que c'est hyper important que je comprenne au moins un peu, même si j'en aurais pas l'expérience, que je comprenne ce que ça veut dire être handicapée, sachant qu'il y a plein de handicaps différents. Hein, voilà. Ou ça peut être. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas d'enfant et je suis pas sûre que j'en aurai un jour dans ma vie, mais c'est hyper important que je comprenne c'est quoi le rapport à la parentalité que certains peuvent avoir, que j'ai une idée, même de loin. De ce que ça veut dire avoir des enfants, de ce que ça peut vouloir dire pour des personnes qui sont comme moi, qui vont être racisées, qui vont être un peu queer, ou même très très queer, qui vont être LGBTQ de manière... Il y en a maintenant, LGBTQA+, de manière générale. On va pas avoir tous les... On va jamais cocher toutes les cases intersectionnelles. Par contre, c'est toujours intéressant d'essayer de savoir ce que c'est chez les autres, parce que comme ça on peut rentrer en empathie avec eux, et comme ça on va contre ses propres préjugés qu'on aura toujours, on aura toujours des préjugés, mais de s'ouvrir comme ça, d'aller écouter les autres et de juste fermer sa bouche de temps en temps, parce que j'essaie de faire pas dans ce podcast, hein, mais que j'essaie de faire quand par exemple je suis sur Twitter, de juste aller voir quel est le ressenti des autres et d'essayer de comprendre, de pas être dans le jugement, de juste lire et de se demander ce que ça nous fait et pourquoi ça nous fait ça. C'est un travail sur soi qui est super intéressant, parce que ça nous apprend des choses sur nous, et surtout ça nous apprend des choses sur ce que les autres peuvent vivre et ce que ça explique de leur comportement, de leurs revendications, de leur douleur, etc. Et pour moi c'est clé pour pouvoir s'inscrire ensuite dans un rapport à la société qui va être plus sain et qui va plus être dans cette recherche de la petite case dans laquelle on est, et donc des attentes que les autres peuvent avoir vis-à-vis de nous.
Voilà, donc merci Eva. Et si je parle aux auditoristes maintenant, vous avez bien fait d'écouter cet épisode sur l'intersectionnalité, même si vous n'êtes pas directement concernés. et dites à tout le monde de l'écouter. Vous pouvez aussi nous écrire, m'écrire pour me demander, pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, est-ce que vous vous posez des questions sur votre genre, sur votre rapport au célibat, sur votre racialisation, sur l'intersectionnalité en général. Et puis si vous avez aimé l'épisode, bien sûr, mettez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast. Et partagez-le avec donc vos proches, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, toujours participer à ma cagnotte Tipeee pour financer mon travail. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Merci encore Eva, et on s'entend le mois prochain pour un nouvel épisode de Sologamy avec un ou une invitée différente. Si tu veux en être, écris-moi, je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci et au revoir Eva.
Merci beaucoup Marie. Au revoir. Just like the water, falling from the sky.